couple notes on me. Oh, did he not? He don't know about me. Okay, low kiddy man and no I mean, and then glow belly fandom and roll for me.
Et bonjour à tous.
Et bonsoir à tous.
Alors on se retrouve aujourd'hui pour la cinquième émission de l'année 2023. Émission particulière en un sens, on avait déjà évoqué ça les émissions précédentes je crois.
Oui, sur l'émission précédente on avait évoqué l'idée d'un changement de format parce qu'on trouvait qu'on se répétait un peu trop sur les formulations et donc d'essayer de réfléchir un peu à ça. Bon, on n'avait pas trop évoqué les idées qu'on avait encore.
On a réfléchi de notre côté et alors c'est du coup un pilote hein, cette émission finalement, qu'on a pas mal changé la forme puisqu'on ne sera plus axé sur la course incessante à la nouveauté, on sera plus dans le temps long puisqu'on va avoir un axe un peu plus thématique, on va dire une émission thématique autour d'un thème, une idée peut-être de débat aussi autour de ce thème.
Oui c'est ça, des discussions, d'échanges, en essayant d'essayer d'argumenter du pour et du contre aussi quand même, d'être dans la nuance quand même, de pas être trop dans la vie que tranché.
On s'en verra. Hein.
Alors, ça c'est sûr, on verra. En donnant notre avis personnel, cela dit, en essayant d'avoir un avis assez objectif sur certains points, c'est de comprendre aussi pourquoi tels sujets sont abordés, notamment là, le sujet qu'on va aborder ce soir.
Le sujet du jour, donc le progressive metal.
Metal progressif, on peut dire aussi.
Nous on dira sûrement metal prog tout au long de l'émission d'ailleurs.
Oui, en termes d'abréviation, metal prog.
Et du coup, l'idée principale, on va dire, c'est qu'on va développer notre argumentaire au fur et à mesure, mais l'idée, à notre sens, il y a des questions ou des limites avec cette idée de metal progressif, qu'on a un avis qui va peut-être vous sembler très à contre-courant, voire peut-être même absurde dans un premier temps, mais on va essayer de dérouler pas à pas notre argumentaire sur pourquoi est-ce qu'on pense que sa logique, son existence ou sa cohérence interne, et il y a cette chose qui nous pose question en fait, sur l'endroit où en est la scène aujourd'hui, sur comment elle se définit, toutes ces choses. Donc on va parler de tout ça.
C'est du coup l'idée de l'émission maintenant, c'est d'essayer d'amener sur l'heure qu'on va avoir ici, une thématique de ce goût-là. Donc il y a plein d'autres thématiques qu'on vous dévoilera au fur et à mesure, ça sera surprise sur D, c'est effectivement de parler de ce metal progressif, metal prog. Prog metal, vous le dites comme vous voulez évidemment. Mais du coup, petit contexte Alexis.
Pour essayer déjà de cerner ce dont on va parler exactement, on va revenir aux sources évidemment. Donc le prog rock bien sûr. Le prog rock, qu'est-ce que c'est? Oui, on va quand même faire ça parce que c'est important je pense de bien savoir de quoi on parle et de pourquoi on parle de là pour aller ensuite vers où on veut vous amener. Prog rock, en gros, ça naît à la fin des années 60. Les influences premières, c'est le rock psyché et aussi, on l'oublie un peu souvent, tout ce qui va être baroque pop comme les moody blues notamment. On verra d'ailleurs que c'est assez intéressant de voir la pop qui est dès le début dans le processeur. Pourquoi la pop? C'est pas tant pour les structures, bien sûr, parce que ça, c'est pas le cas, mais ça va bien être pour tout ce qui est de l'ordre des arrangements et du travail harmonique. Et la pop a toujours été très recherchée sur ça, puisque les structures dans la pop sont simples, du coup, forcément, toute la créativité va se concentrer sur ces arrangements et sur ce travail harmonique. Bien sûr, après, prog, vous avez tous, j'imagine, une idée hein, en tête de ce que c'est. Alors, même si c'est convient d'ailleurs de dire que les albums de Pink Floyd les plus connus sont pas forcément les plus progressifs, hein, puisque c'est la période où justement il va y avoir beaucoup plus de refrains. Et donc, qu'est-ce que le prog à proprement parler? C'est une musique qui se veut plus complexe, qui va aussi piocher dans toute, on va dire, la musique classique occidentale, qui va piocher toutes ces références-là. Il y a une complexité autant de tempo, d'harmonie, on l'a dit, des structures, on va dire, non linéaires. Souvent, ce sont des albums conceptuels, où il y a une idée générale qui oriente les compositions, qui oriente l'écriture des textes. Il y a une variation des durées, des formats. Il y a aussi toute une idée, on va dire, de rapprochement de styles musicaux plus complexes, rien qu'à la base. Rapprocher le rock de la musique classique, ça n'allait pas forcément de soi, encore plus à l'époque, même si aujourd'hui, ça va toujours pas de soi, d'ailleurs, au demeurant. Il y a toutes ces idées-là qui sont, on va dire, dans le rock prog des années 70. C'est d'ailleurs assez amusant aussi de noter que ce prog rock, il va être en fait c'est très court en tout c'est on a une avalanche d'albums cultes que ce soit de King Crimson, de Genesis, de Pink Floyd on l'a dit aussi, tous ces albums là en fait c'est assez court parce que ça va de grosso modo bon, on peut un peu rigoter sur les dates, je sais d'ailleurs moi-même pas en tête particulièrement, mais ça va de 69 à 77 grand maximum, c'est vraiment l'âge d'or du rock surtout anglais, pro rock anglais surtout.
Bah ça vient et puis surtout 70, on peut dire éventuellement 75 77 dans ces eaux-là parce que c'est là aussi l'arrivée du punk.
Oui, en réponse bah, après, à ça voilà en réponse voilà il y a le punk qui va revenir, qui va critiquer cette musique là, même si aussi, selon moi, si on va sur un point de vue plus politique, il y a aussi ce côté désenchantement du monde où c'est des hippies qui pensaient que un côté très utopique dans le rock prog, alors qu'au fond, bah, le punk c'est tout l'inverse. On prépare les années 80, on prépare Thatcher, donc il y a tout ce côté là aussi.
Oui,
en fond, on alimente ces changements de courant musicaux.
Et surtout, il y a le côté rockstar en fait qui s'installe aussi avec justement les groupes comme Pink Floyd où on va idolâtrer du coup tous ces groupes là et tous ces musiciens qui ont la chance d'avoir quand même de l'argent, à pas se mentir, d'avoir pu faire ses carrières musicales grâce à l'argent de papa ou l'argent qui fait. Cette réponse punk, bon, on parlera du punk une autre fois, c'est pas le sujet du soir, mais dans l'idée, c'est quoi là? Du coup, c'est vrai qu'on peut définir un peu donc, cette période du rock prog à la fin, donc milieu 70, donc 75, ou plutôt éventuellement, mais ça irait plus jusque 77, et le développement du punk en contrepartie qui, du coup, vient casser un peu, et nouvelle période, nouvelle forme de rock avec le punk rock.
Après, du coup, de ça, on peut déduire après une approche, c'est qu'il y a des gens très sérieux qui pensent que, du coup, le prog rock, ça n'est que cette période-là, que toute tentative par la suite, c'est juste renouer avec cette esthétique-là d'un point de vue nostalgique, mais que ce serait plus de la musique progressive au sens large. Personnellement, je ne suis pas aussi radical, je ne pense pas que ce soit à ce point-là que de dire que c'est vraiment que de 69 à 77 et que tout le reste serait une espèce de mimétisme plus ou moins réussi par la, sur les décennies suivantes. C'est pas non plus mon avis. Et qu'à l'inverse, moi je pense qu'on peut estimer que toute musique, peu importe son courant, à un moment où elle désire se complexifier, que ce soit pour elle-même ou par rapport pour des questions de légitimité, par rapport à comment elle est consommée, comment elle est perçue, ce qui l'entoure, et que ça va aller se donner cette musique, on va dire, ouais, cette approche plus progressive.
Dans ce prog, des alliances d'esthétique aussi. C'est surtout, il n'y a pas que l'idée de d'album concept, de morceaux longs et complexes. Pour reprendre King Crimson, il y a des portions d'improvisation. Du coup, je te laisserai plus en parler. On a toute la partie rock in opposition aussi.
Alors, le rock in opposition, c'est un mouvement qui est d'ailleurs assez intéressant parce qu'il est, né à la fois en France et en Angleterre, et c'est au Royaume-Uni. Et c'est une sorte, on va dire, d'alliance momentanée de groupes qui avaient des lourdes critiques à faire à l'industrie musicale du moment, qui en gros ne mettaient pas assez en avant leur musique, qui était trop, à l'époque, trop perchée, trop complexe pour être distribuée convenablement selon eux, et du coup ils se sont entre guillemets réunis. Ça a donné un mouvement qui est pareil assez court, hein, ça dure à peine 5 ans. Notamment le leader et le pionnier de ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Henry Coe. Des albums qui sont seulement excellents, mais cette musique qui est, on est à un niveau d'abstraction qui est plus haut que Pink Floyd. C'est beaucoup plus déjà c'est très orienté jazz. Il y a un côté qui va être assez théâtral, mais en même temps c'est très fragmenté. C'est assez hermétique comme musique, on va pas se mentir. Pourtant c'est un moment quand même important. En dehors de ce Rock in Opposition dont je parlais précédemment, il y a aussi toute une scène qui va émerger au Royaume-Uni, avec ce qui s'appelle la Canterbury Scene, du nom de la ville, très simplement, qui va être axée sur tout l'apport du jazz et surtout du jazz fusion. Donc là, on a notamment Soft Machine, qui est un groupe très connu avec l'album Third, qui va dire un des leaders de ce mouvement-là. Et on revient aussi sur cette idée, comme tu disais, d'alliance esthétique, où là, il y a vraiment cette idée de vraiment faire un pont de plus en plus approfondi entre le rock et le jazz fusion.
Oui, on pourra aussi citer Gentle Giants, qui a amené des instruments médiévaux aussi, alors que pourtant, ça paraît pas nécessairement compatible au départ, ils vont réussir à rendre ça quand même compatible.
C'est tout ça pour vous dire qu'à mon sens, plutôt que de voir, on va dire, simplement une idée de complexité, de virtuosité technique dans le prog rock, on voit qu'elle est vraiment traversée par cette idée d'une expérimentation, en fait. Il y a vraiment une idée de défricher des nouveaux terrains, d'aller de l'avant. C'est pas non plus la musique expérimentale, parce qu'il y a quand même le but d'avoir que ça reste agréable à écouter, en partie, puis après ça dépend évidemment de vos goûts, mais cette idée que ça reste, ouais, c'est des lignes de chant dans Yes qui sont extrêmement instantanées, vous les retenez tout de suite. On n'est pas sur un japonais qui fait 2h30 de musique glitchée où il a fait un dispositif avec son disque rayé, puis il fait ça pendant 2h30. Ça, c'est purement expérimental. Mais bien la différence entre les deux.
Oui, surtout qu'il y a toujours, comme tu le disais si bien, dès le départ, l'apport de la pop qui est déjà présente dès le départ dans le prog rock et qui du coup continue de s'y retrouver en fait, notamment Yes, tu citais Yes, qui est vraiment un parfait exemple
pour
ça.
Même les albums, on va dire, les plus connus de Pink Floyd, c'est exactement ça aussi.
Et du coup, c'est ce qu'on retrouve pas, pour rebondir sur ce que tu disais, dans le métal en fait.
Du coup, voilà, pour faire du coup, on fait le lien maintenant avec la partie métal.
Effectivement, on a tendance à, on pourrait définir le métal progressif en soi, parce que le métal progressif se définirait, si on pouvait le définir comme ça, comme une musique longue et complexe, mais ça s'arrêterait là. En citant des groupes comme Dream Theater ou Tool, pour ceux qui sont estampillés de cette vague-là. Prog metal, on a tendance à l'amener par la complexité qu'il a, par le côté c'est des morceaux intriqués, c'est long, il y a des longues plages et des machins, etc. Alors qu'en fait, c'est pas nécessairement le but, parce que surtout qu'au final, ça devient un métal progressif formaté, ce qui n'était pas le cas comme on a pu le voir juste avant, du rock progressif dans sa création, dans du coup au moment des années 60 jusqu'au milieu des 70, il y a ce côté défrichage.
De proposer quelque chose de véritablement nouveau.
Ce que n'amène pas du coup ce métal progressif, que ce soit Dream Theater ou que ce soit Tool, ce sont des groupes qui sont très bien.
Dream Theater, globalement, les meilleurs albums, ils sont à fond pompés sur Rush par exemple.
Et ce sont des bons groupes de façon intrinsèque, même si moi j'aime pas vraiment.
J'aime pas non plus Dream Theater. Alors que la plupart des groupes de prog qu'on a essayé jusqu'à présent, je trouve ça incroyable.
Ça m'ennuie ferme, mais pour autant, est-ce qu'on peut les qualifier de métal progressif au vu de la définition du rock progressif qu'on a ? C'est-à-dire que du coup, il y a des groupes aussi, des artistes dans le métal qui vont défricher du coup aussi des terrains, et pour autant, on va pas les qualifier de prog, notamment dans le death metal, pour parler d'un genre qu'on connaît bien et un peu plus extrême.
Et par exemple, dans le death metal, par exemple, si on prend un truc comme Vital Remains, vous avez des morceaux très longs, avec une succession de riffs, parfois plus de 5 riffs par morceau, qui est la moyenne de ce que le prog moderne va proposer en règle générale, hein, 5 riffs par morceau. Les structures est non linéaire, il n'y a pas nécessairement de refrain. C'est entre guillemets narratif dans la façon d'aller. Il y a un petit bleu acoustique, après beaucoup de blast, après ça ralentit, tatata. Pourtant, à aucun moment on vous dirait que Vital Remains c'est du prog. Ça semblerait complètement idiot de dire ça. Ça semblerait. Pourquoi ? Sûrement parce que c'est Satan. Les gens derrière ils sont sacrément stupides aussi, parce qu'ils brûlent des bulbes sur scène, ce genre de stupidité. Il y a une fiction d'attitude aussi derrière.
Oui, bien sûr. Il y a de ça, mais musicalement parlant, en tout cas, sans l'aspect un peu politique ou revendication, on pourrait prendre encore Ad Nauseam par exemple. Exemple un peu parfait d'une musique intriquée, longue, complexe, conceptuelle, sans refrain, qui n'est pas nécessairement accessible à tout le monde, qui est un peu perché, et qui pour autant, on va pas qualifier ça de progressif, parce que ça reste du death metal dans tous les cas. Ça reste du death metal qui est poussé dans ses retranchements. Et donc c'est pour ça que du coup on va appeler ça plutôt du death metal qui dissonne, donc death metal dissonant. Il y a une scène qui se crée, et là on va pas dire que c'est du prog. Tandis que pour la plupart des groupes de metal progressif, comme on les appelle ainsi, il y a ce côté metal alternatif qui rentre dedans dans tous les cas, et ça fait plus côté metal pop qu'un metal progressif, parce qu'ils amènent pas forcément des éléments nouveaux, parce que ça reste des morceaux qui sont souvent en chant clair, faciles, accessibles à écouter notamment, et donc ça fait une définition trop large en fait. Encore une fois, on est que sur la technicité, la multiplicité du riff, la polyrythmie aussi, ça change.
La polyrythmie, très important, c'est énormément de groupes de prog metal se définissent uniquement parce qu'ils comptent pas les mesures comme vous et moi, voilà. C'est simplement ça, très souvent c'est ça. Alors c'est très bien la polyrythmie, hein, j'ai rien contre, ça donne des trucs ultimes, mais Meshuggah c'est incroyable, c'est pas le souci. Mais est-ce que c'est pas un peu réducteur de juste penser à ça, j'ai 5 riffs, 4 polyrythmies, un morceau de 7 minutes, c'est parti, c'est du prog.
Pour autant, ça veut pas dire qu'ils ne s'inspirent pas de groupes progressifs qui n'ont pas écouté pour le côté complexe de la musique, mais ça reste des inspirations et ça reste une influence, et pour autant, ce n'est pas non plus du prog metal à proprement parler. Si on prend par exemple des groupes comme Aken ou Le Prousse encore, que ça pourrait se discuter, ce qu'on aurait écouté un peu
sur
certains albums.
The Call ou Call, je sais plus si elle joue ou pas. Il y a quand même une influence progressive qui est indéniable, une influence prog rock, en fait, c'est plus une influence véritablement du prog.
Exactement. C'est pas nécessairement en fait ce côté, parce que le métal aussi, ce qu'il ne permet pas, c'est l'improvisation. Alors il y a des groupes qui arrivent, pour en parler un peu après, mais dans l'idée, c'est que le métal, c'est quand même quelque chose qui est très carré, très millimétré.
Ouais, et donc il y a ce côté où c'est très centré sur le bon riff. Par exemple, tout le thrash, c'est quand même le plaisir instantané du thrash, c'est le bon riff qui est répété.
Et ça ne permet pas, du coup, effectivement, comme tu le dis, en fait, d'improviser. C'est pas fait pour le thrash. On ne peut pas improviser sur du thrash.
Ce serait très intéressant, mais ça n'existe pas. Oui.
Voilà, ça pourrait être intéressant. Il y a peut-être des choses justement à défricher là-dessus. Hein. C'est pas la question. Mais dans tous les cas, c'est des choses qui ne se font pas. Et c'est des choses qui sont quand même plus compliquées à faire que ce soit dans le jazz ou que ce soit justement dans le rock, notamment space rock, rock psychédélique, qui sont des genres qui vont facilement dériver parce que justement il y a le côté morceau long, plage longue, etc. Et qui ont été mélangés du coup avec d'autres esthétiques, donc de pop et puis du coup de rock, qui a amené encore une fois aussi l'improvisation n'est pas non plus un élément nécessaire pour que ça soit du prog. C'est juste que c'est aussi une part, encore une fois, un argument qui fait que on retrouve ça dans le prog rock quand même assez régulièrement, mine de rien, et qu'on ne retrouve pas du tout dans le métal parce que les morceaux sont beaucoup trop millimétrés. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve d'ailleurs des mèmes la plupart du temps quand on voit Dream Theater Mosh Pit, pour ceux qui auraient vu ça sur internet. Vous taperez ça sur internet à l'occasion si vous avez que ça à faire, ou vous voyez juste des gens écrire sur des cahiers parce que c'est la blague, ils sont pas en train de faire des pogos comme dans un concert de rock ou de métal où ça bouge un peu plus, parce que c'est une musique complexe, etc. Donc on se retrouve avec un terme un peu fourre-tout, parce qu'il y a des groupes des fois qui vont te qualifier de progressif juste parce qu'ils changent de rythme. Où l'étiquette se retrouve un peu n'importe où. Ça ne fait plus sens. À la limite, un groupe, justement, pour reprendre un peu comme le Proust, comme on disait, il y a quand même des influences prog, donc pourquoi pas. À la limite, on peut dire progressive rock avec métal alternatif éventuellement. Mais pour autant, c'est pas des riffs métal qui ont été improvisés avec des sonorités et qui font que du coup on peut parler effectivement à ce moment-là de prog métal pur. On a du mal à voir ça. C'est plus des groupes qui ont été influencés par Genesis. Par exemple, pour citer Genesis, qui avait fait des albums de prog au tout début, et qui, du coup, dans les 70, par la suite, amène plein de refrains, des structures plus simples, et puis du coup, voilà, des vrais hits, côté
oui,
beaucoup plus pop.
Un revival à ce moment-là, dans les années 80, qu'on appelle le néo-prog, avec notamment des groupes comme Marillion, en plus des albums de Genesis qui vont à cette orientation-là. Donc en fait, il y a deux orientations possibles à ce moment-là, c'est que soit vous faites de l'AOR, adulte orienté de rock, donc c'est des trucs un peu à la Europe, mais il y a des groupes de prog qui sont allés vers ça, ou alors du plus néo-prog, où là, c'est vraiment c'est beaucoup de synthé, beaucoup de refrains, et c'est notamment. Si je dis pas de bêtises, le morceau de Genesis ultra connu, c'est Son of Mine. Bon, ce morceau-là, il est représentatif de cette vague no-prog-là. Et comme tu disais, moi je trouve que, je pense qu'on en est assez d'accord, beaucoup de groupes, surtout les Proust, c'est un exemple extrêmement frappant de ça, ont l'impression qu'ils sont en train de revivre cet âge-là du néo-prog, mais transféré dans le métal, où c'est plus vraiment du prog, où d'ailleurs dans les Proust, la voix est extrêmement mise en avant, c'est limite l'argument premier du groupe, hein, c'est l'atout principal quasiment,
oui.
En tout cas sur les derniers albums. Et on voit qu'ils sont beaucoup plus intéressés par faire des très beaux refrains, même sur les derniers albums, il me semble qu'il y a côté très aussi quasi hard rock sur l'avant-dernier, je crois, notamment. Et c'est en train de revivre ce moment où le prog se popise vraiment complètement.
Exactement. Pour autant, ça n'empêche pas que ce soit des bons groupes qui ont des bonnes productions.
Oui, comme on dit, il
n'y
a pas de jugement de valeur sur ça. C'est plus une réflexion sur ce qu'est et ce que n'est pas le prog. Tu parlais des sonorités tout à l'heure. C'est aussi intéressant parce que je trouve que c'est aussi une des limites du métal où le métal, vous avez forcément, c'est dans les spectres des fréquences. La guitare, forcément, c'est extrêmement distordu. C'est à peu près c'est ce qui va faire que ce soit du métal, soit du rock, quasiment. C'est la distorsion de la guitare en premier lieu. Et du coup, ça va empêcher en termes d'arrangement, d'harmonie, même simplement de travailler sur son guitare. On est forcément très limité parce qu'il faut faire des choix. Si vous réduisez trop à portion congrue cette distorsion majeure de la guitare, surtout si vous faites musique progressive qui va être assez lente, parfois éthérée, vous allez perdre énormément de l'impact, on va dire, vraiment purement violent de travers du son de guitare. Et ça, c'est pour moi une des grosses limites qui fait qu'il y a plein de trucs que le prog rock va pouvoir travailler, que le métal, c'est très difficile pour lui de le faire. Ou alors, il faut qu'il le fasse en faisant d'énormes concessions sur le reste.
Oui, et du coup, il y a amené on parlait tout à l'heure de groupes qui arrivent à improviser sur du métal, il y en a très peu, et c'est souvent dans des franges de métal extrême qui vont déstructurer totalement le métal tel qu'on a l'habitude de l'écouter, même en enlevant carrément ce côté, même construction de morceaux, qui peuvent amener ce côté improvisation tout en gardant les riffs métal. C'est loin d'être infaisable. On pourrait citer Ensign Attack par exemple.
Mes chouchous et d'Effluence.
Oui, Effluence, voilà, je cherche.
On est dans du brutal death avec des grosses parties improvisées.
Effectivement, là, ça fonctionne parce que. Et pourtant, on va pas dire que c'est du prog encore une fois.
C'est pas du prog du tout. C'est pas possible de dire que c'est du prog. C'est
non.
Impossible.
Mais pour autant, il est possible d'amener ça. Mais c'est juste que ça demande effectivement des concessions et un travail différent, ce que ne font pas tous les groupes estampillés du prog metal qu'on connaît, qui sont des groupes modernes.
C'est une radicalité qui, je pense, n'est pas du tout ce que recherchent autant les musiciens que l'histoire de ces musiques-là.
Avec un propos trop calibré comparé à ce que l'émulation que proposait le prog rock dans les 70, et même s'il a pu continuer à proposer après, avec il y a eu d'autres groupes de rock prog évidemment qui ont continué à faire ça. On pourrait citer même toute la scène qui ont des. Je sais pas si la scène krautrock, elle pourrait aussi aller en lien avec ça, mais c'est des scènes qui ont expérimenté des trucs aussi dans les 70. Smith et qui ont poussé le vice aussi. Il y a continuité là-dessus. Là, le nom, c'est quand même très calibré. C'est un morceau comme qui fait tant de minutes avec comme des couplets de construction qui se fait, qui est hyper calibré, trop calibré et qui laisse pas très peu de part aussi à l'émotion, parce que ce qu'il y a dans le prog rock, c'est qu'on porte comme de l'émotion. Yes, on peut avoir envie de danser, l'autre on peut avoir envie de s'évader. Alors que là, on écoute, on est en mode, ah, c'est complexe et ça s'arrête là, quoi.
Bah, de façon générale, j'ai cette impression que dans le métal extrême, quand il est devenu plus compliqué, en général, il a fait des sous-genres. Il a fait du death dissonant, il a fait le death technique, il a fait tout ce qui est un peu la blague black orthodoxe, même si c'est un peu passé de mode aujourd'hui que c'est plus black dissonant tout court. Et vraiment, si on va vers le côté vers le doom, ça donnait plus le post-metal. Et qui s'est complexifié, ça crée des sous-genres en fait. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Parce que d'un côté, ça ferme aussi des portes avec des trucs qui sont plus codifiés pour appartenir à tel ou tel sous-genre. Ça a ses limites aussi. Quand c'est le cas dans le métal non extrême, du coup, donc tout ce qui est power, trash, heavy, toutes ces merveilles-là, ça vient du prog en fait. Sans vraiment de raison finalement, sans réelle raison, c'est à 90% c'est du métal technique.
On pourrait citer, on avait cette idée d'exemple en tête d'un groupe qui est devenu un groupe de rock progressif et qui était un groupe de death mélodique qui s'appelle Opeth, avec l'album Blackwater Park, qui est cité comme un album de metal progressif, death progressif d'ailleurs, une étiquette encore plus absurde que le reste, mais ça c'est un autre débat encore, mais ou juste parce que il y a une répétition de boucle à un moment donné sur un morceau ou sur des morceaux et que ça va assez lentement et que il fait des changements de notes et puis des changements de chant, ça devient
surtout quand tu regardes Opeth. Alors je n'aime pas Opeth, ça c'est une réalité qui est assez voilà, mais alors je trouve que c'est un groupe qui a cette tendance à, ils ont déjà, il y a des moments où ils vont répéter beaucoup plus les riffs qu'en apparence, déjà c'est un premier point, et aussi souvent ils vont répéter les riffs juste en changeant un peu le thème ou le tempo, mais c'est globalement le même riff en réalité. Par exemple aussi sur le passage que j'ai choisi, donc c'est un morceau sud comme tu dis de Blackwater Park, il y a ce côté où par exemple là, je trouve que la transition entre le moment où il y a le chant clair qui est, il vaut ce qu'il vaut mais il existe, il est joli, on va dire qu'il est joli, et alors il y a juste une espèce de lead qui est juste une espèce de répétition de mélodie qui va être altérée peu à peu, et d'un il y a le growl, et selon moi c'est pas si malin que ça, c'est qu'on aurait très bien pu faire exactement l'inverse, mettre le growl au début, la lead et puis et d'ailleurs c'est ce qui se passe au début du morceau, et le passage en clair, ça aurait été pareil, et c'est ça ce côté où la structure est pas si travaillée que ça en réalité.
Non, parce que c'est interchangeable finalement.
C'est pour moi il y a une question de plus juxtaposé que progressif en fait.
Je propose qu'on écoute un petit extrait quand même pour qu'on puisse se faire une petite idée.
J'ai une petite idée de ce dont on parle exactement, voir si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit. Peut-être que vous allez trouver ça au contraire, que c'est la progression est extrêmement logique. Alors c'est pas le morceau en entier puisqu'il dure 11 minutes si je dis pas de bêtises.
Oui.
C'est un extrait de 2 minutes.
Et c'était quel morceau du coup
C'est Drapery Falls. D'écouter The Drapery Fall d'Opeth.
Oui, du coup un petit extrait du groupe, et donc on a mis cet extrait exprès effectivement parce que c'est le passage un peu éthéré du morceau. Est-ce qu'on peut dire que du coup c'est du metal prog, parce que tout ce qu'on retrouve c'est un pont un peu éthéré avec du chant clair, comme il y en avait dans d'autres groupes de death metal à l'époque. On pourrait citer Cynic,
Atheist, Well.
Voilà, tous ces groupes là, toute cette scène là, et pour autant c'est quand même, voilà, ça reste bien fichu. Je peux comprendre qu'on retrouve une émotion pour l'époque, à l'époque sortie en 2001, peut-être un côté un peu rafraîchissant dans le death metal et tout, mais pour autant est-ce qu'on peut amener, parce qu'il utilise un peu de guitare acoustique, un chant un peu éthéré avec un peu de réverb, amener le fait que ça soit progressif? Non, parce qu'en fait déjà on est sur une boucle qui se répète tout simplement.
Même la partie de ses vocalises, moi personnellement je suis quasi certain que c'est samplé, que c'est répété.
Oui, ça fait samplé, et il n'y a pas d'expérimentation, on n'amène pas des... Il aurait par exemple amené, je sais pas, pas une guitare acoustique, mais un instrument médiéval, du coup, une sorte de...
Viola roue, peut-être.
Ouais, par exemple, ce genre d'instrument, c'est quelque chose un peu comme ça, qui détonne un peu. On se dit, j'avais jamais entendu ça avant, avec du death metal. Il y a une expérimentation, il y a un côté, on défriche quelque chose, un peu de créativité, et en plus de ça, on expérimente, on amène des trucs avec un tout petit peu d'improvisation, pourquoi pas, même un petit solo de batterie très léger, machin, qui pourrait coller au côté éthéré, enfin, je sais pas, il pourrait y avoir des trucs.
Même simplement, par exemple, toute la partie acoustique, là où vraiment le motif est vraiment répété pendant beaucoup trop longtemps, pourrait très bien utiliser sa basse, l'amener en complément, avoir un son de basse un peu travaillé, faire interagir les deux lignes, et déjà, il se passerait déjà peut-être un peu plus de choses.
Après, on n'est pas là pour dire que c'est un mauvais morceau, que c'est un mauvais groupe, c'est pas une question de jugement de valeur dans ce qu'on veut dire.
Non, parce que je pense qu'on le disait tout à l'heure, c'est qu'au début des années 2000, c'est sûrement un moment un peu à part pour le death metal au PEF, je pense, même si je suis pas du tout réceptif, et c'est tout un côté où je trouve qu'il a peut-être un peu revitalisé toute une imagerie un peu gothique et tout à sa façon.
Exactement, effectivement. On peut comprendre l'intérêt du truc, mais pour autant, à venir de là, à qualifier ça comme du death metal progressif, c'est un peu trop. C'est pas suffisant, en tout cas, pour que ça puisse être qualifié en tant que tel. Ça n'expérimente pas assez, ce n'est pas assez créatif, même si ça peut l'être dans la bulle du death metal que c'est. Et encore une fois, il y a déjà des groupes qui faisaient déjà ça avant OPF dans les années 90. Donc du coup, il y a des, et notamment, on a parlé d'Athéiste, qui amène du jazz fusion dans du death metal, qui est très cool aussi. Et pareil, morceaux intriqués, morceaux complexes, pas forcément longs par ailleurs. Et donc, du coup, on se dit pas, c'est du metal progressif. Non, parce que ils amènent juste du jazz fusion dans ce metal-là. Et pour autant, ça pourrait être plus facilement qualifié de metal progressif pour le coup, par le côté défrichage et ce genre de choses, que OPEF pour le coup. Alors après, on peut aussi se poser la question de quels albums ont pu poser un peu peut-être les bases, ou surtout l'album un peu archétype du metal progressif.
Alors archétype, c'est peut-être pas à proprement parler, mais je trouve que c'est donc cet album Red de 1974 de King Crimson. Le son de guitare est très massif, surtout pour l'époque. Dans la façon dont il va gérer, je parlais des différences des variations de thèmes autour d'un seul riff, et comment il va faire varier ces thèmes-là, avec le même riff qui est assez simple au final, et comment il va le développer, le faire varier, qu'on retrouve énormément dans le prog metal, parce que Dream Theater et OPEF, c'est un peu les champions de ça, même si chez King Crimson, vous allez voir dans l'extrait que j'ai choisi du morceau, il y a tout un travail justement avec la basse, où la basse elle fait plein de trucs en contrepoint tout le long, et elle chemine plus que le riff en lui-même finalement.
Et limite le riff sert plus de point d'appui pour la basse que l'inverse, quoi.
En partie, mais en termes de son, comme c'est quand même le riff est quand même très en avant dans le spectre, c'est pas exactement comme ça. Montré, il y a une véritable interaction entre les deux.
Un petit extrait du coup.
Un petit extrait de ce morceau.
Un petit extrait pour.
Donc c'est le morceau Red de l'album Red, incroyable.
On vient d'écouter Red de King Crimson. Effectivement, on retrouve bien cette matrice de un riff qui est répété pendant beaucoup trop longtemps pour moi, et qui du coup voilà,
décliné par thème,
décliné par thème
avec des relances de la basse qui va exactement relancer, et puis derrière la batterie qui, je pense, fait pas des trucs, fait pas du 4/4, ça c'est certain,
quelque chose quand même d'intéressant, d'intriqué, voilà, qui est quand même bien fait, bien fichu, avec un riff pour l'époque en tout cas qui sonne assez massif, dans le rock en tout cas. Bon, effectivement, ça fait quand même la matrice un peu de ce que de ce qu'est un peu le prog metal comme il est considéré comme tel aujourd'hui.
Et le prog metal, oui, il y aurait la basse serait moins en avant, il y aurait des polyrythmies plus marquées, c'est-à-dire un peu plus vite, je pense. Un chant très nasillard en plus par-dessus, on a un groupe de prog metal.
Souvent, parce qu'en plus, souvent, ça peut être mixé avec un peu du heavy ou du power, et puis on a vite un chant aussi un peu qui peut prendre un peu de place, et puis du coup, ça... après, un groupe plus moderne qu'on pourrait citer aussi, qui se sont inspirés quand même d'un King Crimson, et puis d'autres groupes un peu qui ont fait un peu dans la même idée. On pourrait parler de Mastodon, notamment. Je sais pas s'ils sont vraiment inspirés d'un King Crimson en soi, mais on retrouve un peu cette idée de changement de rythmique, etc. Et pour autant, les qualifier de...
Ça paraît presque absurde.
Metal progressif,
c'est
oui.
Pourtant, c'est considéré comme metal progressif par beaucoup de gens, alors que moi, ça me semble vraiment... Alors que pourtant, Mastodon, autant, c'est tant qu'on a cité, j'aime pas particulièrement, voire du tout, autant Mastodon, je trouve ça vraiment... C'est très bien, en tout cas.
Oui, c'est très très bien. C'est très très bien, c'est vraiment à part, c'est plutôt unique. Encore une fois, ça reste du metal.
C'est du metal qui est technique, il y a un apport, il y a du sludge et tout, c'est plus technique que la moyenne, la batterie notamment, qui fait tout un tas de trucs et tout, ça c'est certain.
Oui, il y a des apports d'autres genres ou d'autres styles de musique dedans pour amener une certaine fraîcheur, mais pour autant, on sort pas des carcans du métal, ça reste du métal avec de la rythmique, la guitare en avant, un peu de chant clair s'il y en a, un peu de chœur, un peu de chant plus, un peu plus énervé, puis voilà. Mais voilà, on reste sur un des carcans, et puis des groupes qui s'enferment en fait dans quelque chose, et qui sortent pas en fait de ce qu'ils font. Et c'est bien tout le problème, c'est qu'on se retrouve du coup avec des groupes qui ont un style, voilà, et qui vont le copier, le recopier, et vont faire une ACDC en fait, hein, si on peut. Si c'est un syndrome, voilà, une ACDC ou ACDC, c'est le même album avec quelques variations, des micro-variations.
Je vais te dire que pour metal est égal à ACDC, c'est parfait.
Ah bah, dans l'idée, c'est qu'on retrouve du coup des groupes qui sont. C'est l'idée, c'est pas de dire que ACDC c'est du prog metal, évidemment, ou du prog rock, hein, ça reste du hard rock. Ne mélangez pas tout, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Juste, voilà, c'est que c'est des groupes qui ont des marques et qui vont les décliner sous différentes formes, mais qui restent dans un carcan très fermé, et qui vont pas chercher à faire des grands écarts entre les différents albums aussi. Alors, comparé à la scène rock-prog...
En fait, c'est un peu triste, mais je pense que le prog metal aujourd'hui est devenu un sous-genre très codifié, comme les centaines d'autres de ce genre de metal qui existent, ni plus ni moins, et que tout ce qui faisait la spécificité du genre, ou qui pourrait en faire l'attrait, bah, c'est plus véritablement là, en fait.
Exactement. Peut-être qu'au début, on pourrait qualifier effectivement les tout premiers albums de metal progressif tel quel, parce que c'était nouveau, il y a une rencontre de genre, etc. Mais c'est tellement codifié que du coup, est-ce que ça en fait encore sens de parler de ça à ce moment-là? Effectivement, c'est rentré dans les mœurs, et donc c'est compliqué de détacher ça, mais est-ce que ça fait encore sens d'évoquer ça maintenant? Personnellement, j'en doute quand même, qui rend une musique beaucoup trop calibrée pour ce que ça propose.
Vu que maintenant on a pas mal, on va dire, critiqué, on va essayer d'être aussi constructif, et
oui,
du coup,
bien sûr.
On va vous proposer... deux groupes qui, de métal, hein, qui, selon nous, rendent plus honneur ou s'inscrivent plus sur ce qu'on a essayé de décrire jusqu'à présent de ce que nous semble être le prog.
Voilà, dans ce que ça s'en approche, idéalement, dans l'idée de défrichage, d'apport différent, de côté peut-être un peu patchwork, certainement, peut-être des fois, mais bien plus intéressant ou... à écouter que des Dream Theater, encore une fois. Même, encore une fois, je pourrais citer Gojira qui est qualifié de prog metal alors que ça vient du death metal. Ils ont leur propre son maintenant. C'est peut-être plus vraiment du death metal, mais pour autant, ce n'est pas du prog
metal. C'est très bizarre de dire que c'est du prog metal. Donc je te laisse commencer du coup deux groupes-là.
Oui, c'est ça. Bah, on va parler de Coyodot et de Between the Buried Enemy. On va commencer par le second. Si on devait, pour moi, qualifier un groupe avec des touches prog, hein, encore une fois, c'est pas un groupe de prog non plus pour autant, parce que ça reste. Between the Buried Enemy, c'est un groupe de metalcore en fait au départ. Donc ils sont formés en 2000, donc c'est quand même pas tout récent non plus, avec une discographie de 11 albums. Et déjà à l'époque, dès le premier album, ça défriche quand même déjà les genres, où ça mélange un espèce de metalcore bien burné avec de l'émo aussi, qui est super émotionnel, enfin, puis en même temps un break de deathcore bien débile. Enfin, il y a un espèce de patchwork comme ça, mais qui reste metalcore. Donc bon, l'aspect progressif n'existe pas non plus, mais il y a déjà cette idée de richesse. Et par la suite, surtout à partir de 2015, avec Coma Ecliptique, qui va du coup amener cet aspect prog progressif, avec des éléments du coup un peu différents et qui va se développer au fur et à mesure des albums, notamment sur le dernier, avec toujours ce metalcore moderne et complexe et ce côté violent, espèce de violence gratuite dedans. Et en même temps, du coup, des synthés qui font années 80, très kitsch. Il y a aussi de la new wave, du rock 70s, de la musique latine. On pourrait citer le morceau Revolution in Limo sur cet album-là. Tout un panel en fait de genres comme ça qui sont imbriqués et ce côté où ça cherche pas forcément à construire des... Il y a ce côté presque improvisation qui ne l'est pas, parce que ça sent que ça ne l'est pas quand même, mais qui pourrait passer pour de la musique quasi improvisée, notamment sur le morceau que j'ai pris, avec le petit solo de batterie, enfin, vous verrez juste dans un instant. Et peut-être que ça ne sonne pas parfait, et peut-être que pour certains, ça sera un peu patchwork, justement, un peu collage et tout, mais pour autant, c'est quand même bien fichu, c'est bien amené, c'est très intelligent dans la construction, il y a le côté conceptuel, il y a le côté on cherche à amener des choses différentes, qui n'ont rien à voir avec le metal au départ, une vraie richesse, et ça se pose moins de questions grâce au côté justement metalcore un peu plus gratuit, et donc du coup il y a ce côté direct où ça marche en fait, et c'est juste efficace, on écoute, c'est juste voilà, donc c'est l'album Colors 2 hein, dont je parle, qui est sorti en 2022, et c'est vraiment une grosse richesse. Je propose qu'on écoute ce petit morceau là qui s'appelle Fix the Error, si je me souviens bien.
Et c'est parti pour Fix the Error. We'll be right back. Et nous venons d'écouter Fix the Error de Between the Buried and Me sur l'album Colors 2. Pour rebondir très succinctement sur ce morceau, je trouve qu'il y a une générosité dans la musique de BTBAM qui est vraiment, qui fait vraiment tout le sel. Il y a un côté très expansif, il y a plein d'idées tout le temps. Et puis, on nous dit, ils se font plaisir constamment. Ils ont une idée, ils la font, ils se posent pas de questions. Et ça, c'est vraiment super plaisant pour le coup. Alors, de mon côté, je vais vous parler du Kayodot. Kayodot, c'est un groupe qui est formé sur les cendres de Maudlin of the Well. Maudlin of the Well, c'est un groupe, on va dire, de prog metal, prog rock, assez entre les deux en réalité, avec une petite emphase mais légère death metal. Le groupe se sépare au tournant des années 2000, et il y a la tête pensante qui est déjà très influente dans le groupe, qui s'appelle Toby Driver, qui est le musicien préféré, toujours confondu d'ailleurs, et donc qui va fonder derrière Kayodot, qui va être à la fois plus centré sur lui, même si lui, il a toujours ce côté où c'est, il peut faire telle ou telle musique parce qu'il s'entoure de musiciens, donc il n'y a pas du tout ce côté, on va dire, égotique où faut tout qu'il fasse, hormis le coupe quand même le chant, il est quand même très versatile parce que il sait autant jouer de la guitare, de la batterie que du gamelan. Donc voilà, ça donne une idée de.
Ouais. Et puis il a un projet solo aussi, plus art pop, et il va plus facilement aussi sortir aussi des musiques mi-ambiante, mi-impro, etc. Donc il y a un vrai panel.
Ouais, il a vraiment un panel extrêmement large de tout ce qu'il sait faire. Kayodot, pour grossièrement évoquer leur discographie, il y a en gros, on va dire, deux époques, une époque jusqu'à Umbardo qui doit faire 5 albums environ, où c'est un patchwork assez considérable de plein d'esthétiques. Donc ça va du dark jazz au sludge metal, au post-metal, à la musique de chambre, mais avec un fond métal extrême et pareil, un petit ancrage death metal, mais c'est quand même très très léger. C'est pour ça que j'en ai beaucoup écouté que je vois cet ancrage là. Et après Umbardo, par contre, ça va de plus en plus lorgner sur le rock. Et en gros, il y a un album égal, on va dire, un détour particulier. Il y en a un qui va être très progressif électronique, synthwave, qui est très bizarre quand même, mais très très bien. Tout dernier, il va être plus orienté goth rock, goth metal un peu, avec toujours une certaine complexité, une certaine abstraction. C'est une musique qui est assez hermétique, quand même, mine de rien. Et pour moi, c'est un peu l'adjectif surréaliste dans le metal. C'est le premier groupe qui va venir à l'esprit, c'est Kayodot. Pour moi, c'est une musique qui est vraiment surréaliste sur plein d'aspects. Et j'ai écouté le morceau hier pour préparer l'émission. Et je trouve d'ailleurs que on parlait il y a quelques mois d'Ashenspire. Et je trouve que c'est une très grosse influence d'Ashenspire. Tu me diras ce que t'en penses en écoutant le morceau.
Ouais, bien sûr.
On va écouter ce morceau qui s'appelle A Vision Adjusted to Another Wavelength sur l'album Umbardo qui date de 2004. Et c'est parti pour écouter ce morceau de Kayodot. Yeah! Et donc nous venons d'écouter un morceau de Kayodot intitulé Vision Adjustment to Another Wavelength sur l'album Umbardo. Bon, vas-y, rebondis sur.
On trouve une certaine radicalité. Radicalité, pas dans le sens côté métal extrême, et le côté extrême aussi chaotique du truc, mais dans l'approche, c'est-à-dire dans la construction du morceau, dans l'approche musicale. Ce que proposaient les groupes de rock progressif dans les années 60-70, c'est qu'ils se posaient pas de questions. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, ils savaient qu'ils faisaient des trucs nouveaux, et c'est juste cette radicalité-là qui manque, ou en tout cas, au groupe. Encore une fois, des Dream Theater, des Mastodon, ce genre de groupe qu'on qualifie dans cette scène-là.
Une petite anecdote du
coup. Oui, j'allais y venir.
Kayodot, donc c'était Toby Driver lors d'une espèce d'interview sur Reddit, qui a dit la chose suivante, et je trouve ça très amusant parce que c'est un peu comme s'il pointait lui aussi les limites du prog metal. Et donc, justement, en parlant d'OPEF, alors je cite une traduction approximative: j'ai aimé OPEF pendant des années, mais je trouvais que les différentes parties de leurs morceaux n'étaient pas très bien connectées, que l'on aurait pu interchanger la plupart des riffs entre les morceaux. Ainsi, je fus inspiré et essaya de faire quelque chose pour contrebalancer, et cela donna Core of the Eyes. Là, je trouve que c'est assez révélateur, ouais, que lui aussi a vu ces limites-là et a tenté de faire autre chose, quoi.
C'est ça. Donc du coup, il y a vraiment ce côté expérimentation, encore une fois aussi, qui est vraiment si on devait garder un terme quand même qui fait définit le rock progressif, c'est le côté expérimentation, côté défrichage. Tandis que là, dans qui est qualifié de prog metal, pour on pourra un peu conclure là-dessus, sur ce petit sujet, en espérant que ça vous ait plu, que c'était intéressant. On donne notre avis après, il est peut-être un peu tranché, il est peut-être pas forcément, peut-être que les arguments vous les trouverez bidons.
On a aussi nos points aveugles, voilà. Nos pieds.
Oui, il y a aussi ce côté où il y a la scène metal avant-garde, qu'on qualifie en tant que tel en tout cas, qui pour moi a plus cette place de prog metal et qui devrait plus être qualifié de prog metal que la scène prog metal elle-même. On pourrait citer Eiffel du Hat, on pourrait citer Arcturus, toute cette scène-là qui est vraiment géniale et très riche. Je vous conseille d'écouter surtout ces deux groupes-là. Ils ont fait vraiment des trucs vraiment très très chouettes. Il y aurait plus des groupes comme ça, des artistes, et on pourra parler à l'occasion de la scène avant-garde metal. Je pense que ça pourrait être un sujet à part entière, à mon avis.
Oui, ça pourrait être intéressant aussi, ouais, de reparler la place de l'expérimentation. Qu'est-ce que c'est qu'expérimenter au sein de la musique? C'est des questions intéressantes.
Ouais, c'est ça, expérimenter au sein de la musique, effectivement, que ce soit du rap évidemment, puis aussi du rock, et puis aussi de la pop évidemment, parce qu'il y a aussi l'expérimentation dans la pop. Pas que la pop, on entend la radio évidemment, qui a des très bons hits, hein, soit dit en passant, mais il y a plein d'autres choses. En tout cas, pour revenir à cette petite conclusion que j'essayais de faire juste avant, du coup, il y a ce sentiment qu'entre les auditeurs qui vont écouter aussi ce metal prog, voilà, c'est ce côté, on essaie de se distinguer un peu des autres. Il y a déjà ce côté-là quand on va écouter du metal lorsqu'on a 14 ans, 15 ans, parce que aussi on se construit son identité, c'est normal, hein, voilà. C'est pas en soi une remarque négative quand je dis ça, dans le sens où l'idée c'est pas de dire vous cherchez à vous sentir à part, du coup c'est pas bien.
On apprendre à se distinguer des autres, et pourquoi on se distingue, c'est important pour
c'est
tout le
monde
en fait, c'est pas forcément quelque chose de négatif.
Exactement, et moi je l'ai fait, moi le premier. Hein, moi, le
je
premier,
l'ai fait aussi.
Voilà, parce qu'on avait besoin de se démarquer, de se sentir un peu à part, parce qu'on se reconnaissait pas dans d'autres schémas, dans d'autres présentations plus classiques, en tout cas au moins au niveau de la musique, il y a peut-être d'autres éléments un peu culturels ou sociaux. Donc du coup, il y a ce côté aussi, pour se distinguer, on va écouter une musique que les autres personnes ne comprennent pas. Du coup, c'est bien qu'ils la comprennent pas, parce que c'est notre truc à nous, ça nous appartient, et on peut pas le garder vraiment pour nous. Quelque chose de plus personnel. Mais là, je retrouve que du coup, ça en devient aussi un peu un running gag, où ceux qui écoutent ça, qui défendent ça à fond, bec et ongle, surtout après, dans les années à vrai, parce qu'il y a l'adolescence, ça ne dure pas éternellement, évidemment. Les arguments, des fois, vont rester chez certains, et c'est ce qui fait qu'on devient un peu, ça peut en devenir un peu clownesque, voire ridicule. D'un autre côté, on peut comprendre cette envie, cette idée d'avoir quelque chose qui est bien à nous. Parce qu'après, si jamais l'idée c'est de rester aussi dans un carcan, dire moi j'aime bien ce que j'aime bien, c'est Iron Maiden, Dream Theater, j'aime bien tous ces groupes là de heavy, puis ces groupes un peu de prog, et j'aime bien quand ça chante machin, etc. Même s'il n'y a pas forcément de refrain, je me sens, c'est très bien, franchement, il n'y a pas de mauvais goût, tous les goûts sont dans la nature. Mais il y a ce côté aussi, est-ce que c'est légitime d'appeler ça après ces groupes là du metal progressif, du prog metal?
Et oui, alors ça c'est pas personnel ce que je veux dire là, on n'est pas forcément, peut-être c'est pas forcément une réalité, mais j'ai parfois cette impression que le prog metal c'est un peu la caution intellectuelle de la contre-culture metal en général, c'est un peu, mais regardez, si on sait faire une musique aussi intelligente que ce qui a été adoubé et reconnu par les institutions en général, c'est un peu limité comme approche en fait. C'est que c'est bien de faire une musique aussi complexe et tout, c'est très bien techniquement, irréprochable et tout, c'est très très bien, mais est-ce que c'est si intéressant, surtout dans la durée en fait?
Exactement, je trouve ce côté là aussi avec tout ce qui est death metal symphonique, ces petites flèches Flash God Apocalypse notamment, pour ne citer que ces deux groupes là, où ils ont amené de la musique classique, pour dire ça grossièrement, hein, m'insultez pas pour dire ça grossièrement, dans le métal, et donc avec de l'instrumentation machin, des violons et tout de suite, je me sens au-dessus. Alors qu'en fait non, c'est juste qu'ils ont enrichi leur musique, ce qui est très bien, avec du coup d'autres styles de musique, donc des styles de musique savantes, si on peut les appeler ainsi aussi, et c'est très très chouette. Mais pour autant, faut pas se sentir supérieur parce qu'on écoute ça. On peut se sentir un peu à part, et notamment surtout pour un période d'adolescence, c'est tout à fait normal et c'est même logique de se construire son identité. Et on continue toujours de se construire, même au fur et à mesure de sa vie, ça c'est sûr. Mais pour autant, faut pas se sentir au-dessus des autres parce qu'on écoute ça. Et on a ça avec tout type d'auditeurs aussi, hein, dans tous les styles de musique. Là, on parle de métal parce que c'est effectivement, on était sur le métal progressif et que c'était le sujet du soir. Mais ça pourrait marcher.
Il y a ça dans le rap entre le boom bap conscient et le jazz autotune aujourd'hui. C'est énormément de gens pensent que c'est du sous-rap le truc avec l'autotune. Alors que des fois, c'est faux, des fois, c'est beaucoup plus créatif. Et c'est marrant parce que c'est à peu près le même truc. Hein. Le boom bap, c'est une rythmique, un son de snare. Et les textes, ils sont toujours les mêmes flows. Alors que bah, l'autotune, elle paraît de faire pas mal de choses différentes.
Exactement. Donc voilà, on retrouve les mêmes problématiques dans d'autres genres de musique. C'est pas
même si c'est pas configuré pareil, que c'est pas les mêmes types.
Reliés, voilà.
Bah, c'est pas évident. T'as choses différentes, évidemment.
Voilà.
C'est des dynamiques qui peuvent être plus ou moins un peu reconnaissables d'un genre à l'autre.
Du coup, pour conclure, l'idée c'était donc dans cette émission un peu de défricher un peu des thématiques comme ça. Et donc là, on vous a amené ce côté, ce qu'on pense un peu, comment on définirait le prog metal, plus
ou les enjeux qui autour de
les enjeux qui autour
de
la notion de définition aussi.
Comment on catégorise la musique et
exactement.
Pourquoi on la catégorise finalement.
Et oui, c'est aussi ça, parce que s'il y a des gens qui catégorisent les groupes qu'on a cités comme du prog metal, ce n'est pas pour rien aussi. C'est aussi parce qu'il y a des habitudes. Il y a aussi ce côté, ça a été qualifié peut-être comme ça dans à l'époque dans des magazines par des chroniqueurs et donc d'autres personnes l'ont lu, se sont dit ah chouette je découvre un nouveau truc, j'écoute du prog metal et de fil en aiguille c'est comme ça que ça se crée aussi. Enfin donc voilà on s'est intéressé en soi sans dire que on détient la vérité, que ce qu'on a dit que c'était forcément vrai. On a essayé d'amener du coup un raisonnement quand même, quelque chose de réfléchi autour de cette question et de ces notions là pour se poser des questions et de savoir si c'est légitime d'appeler ce genre d'amener ce genre de la coquiner du coup avec ces groupes.
Et donc on espérera voilà, que ce format un peu plus exploratoire, plus dans la réflexion, avec des tas d'idées balancées comme ça, ça vous aura intéressé, vous aura plu.
On ne déclame pas une vérité toute faite, ou la vérité en tout cas, la nôtre en tout cas.
On pense que notre approche peut permettre de se poser des questions.
Exactement, et on essaye justement d'amener des questionnements, plus qu'autre chose, même si on affirme des choses effectivement, et qu'on peut être très affirmé dans ce qu'on dit, parce que c'est ce qu'on pense, pas pour autant que c'est la vérité. Voilà, je terminerai là-dessus, et puis on se retrouve le mois prochain pour la suite.
Le mois prochain, du coup, donc voilà, on verra nous aussi de notre côté le rendu de l'émission et voir pour une autre thématique très différente, sûrement pas du métal d'ailleurs ce coup-ci. Et du coup, au mois prochain.
À la prochaine et bisous.